veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Elle vient d'Argentine, Elsa Justel, de Mar del Plata plus précisément. Mais elle vit en France depuis longtemps. Elle est musicienne et c'est une des signatures de l'électroacoustique actuelle. Elle poursuit avec ferveur sa chasse au son, le son qu'elle polie, tourne et retourne en studio. Thomas Baumgartner propose de faire sa connaissance ce soir dans la deuxième partie de l'atelier du son. Mais dans un premier temps, préparez-vous à traverser le XXe siècle musical et sonore à toute vitesse. Préparez-vous à l'électronique, à la vague techno, au rave et au free party. Voilà du son pour vos corps sur le dance floor avec Guillaume Kosmicki et Thomas Baumgartner. Ça commence maintenant.
C'est l'histoire d'une impulsion. Une impulsion électrique qui, un jour, est entrée dans le champ du son, dans le champ de la musique. Et l'impulsion a tout changé, ou presque. En tout cas, elle a permis la réinvention du son. Depuis la recherche pointue jusqu'à la production grand public, le son électronique, c'est toute une histoire. Toute une histoire qu'on voulait creuser dans l'atelier du son depuis un moment, avec Guillaume Kosmicki, grand spécialiste du genre et auteur du livre « Musiques électroniques des avant-gardes au dance floor » aux éditions Le Mot et le Reste, et qui est sur le point d'être réédité. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Guillaume Kosmicki. Bonsoir Guillaume Kosmicki. On commence par du John Cage pour commencer cette émission et la conversation avec vous. Ça va? Ça vous va ça pour commencer?
Ah ouais, je trouve que c'est très bien, très bien. Bonne mise en entrée en matière.
Bah oui, parce que la question c'était musique électronique, c'est la question que vous vous posez au début de votre livre, donc musique électronique des avant-gardes de dance floor. C'est qu'est-ce que c'est musiques électroniques? C'est la question du terrain.
Ah, c'est sûr.
Et évidemment,
c'est...
le chercheur que vous êtes, le musicologue que vous êtes, commence par ça.
Bah oui, c'est sûr que c'est un sac énorme, un petit peu fourre-tout quand même, on peut dire, disons même que le terme, l'appellation telle qu'on l'emploie hein, depuis à peu près les années 90, elle a été un petit peu artificiellement mise en place, cette appellation, surtout en France. Et dans ce sac un petit peu fourre-tout, on y met des musiques effectivement très 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 différentes. Le plus difficile, effectivement, ça a été de trouver une unité à l'ensemble. Et je crois que l'unité la moins artificielle, la plus évidente, c'est évidemment la technologie. Mais même à ce niveau-là, même lorsqu'on pense avoir trouvé la voie en se disant « bon, là, tout simplement, c'est des musiques qui reposent sur l'électronique », même là, on est un petit peu gêné quand même pour retrouver quand même une définition, parce que l'électronique est utilisée ne serait-ce que par la technique de l'enregistrement, par exemple, dans les enregestrements électriques, reposant sur la technologie de l'électricité.
Mais ça, c'est une dimension que vous vous intégrez dans votre réflexion,
absolument,
l'enregistrement.
Absolument.
Même, en fait, il y a une chose qui est assez caractéristique de votre vaste réflexion, c'est que la technique de la production de la musique qui devient et utilise les mêmes outils que l'enregistrement de la musique, mais aussi on se rend compte que aujourd'hui en tout cas, la diffusion et la circulation de la musique. Finalement, vous parlez de ce qu'il y a dans le tuyau et du tuyau lui-même.
Absolument, absolument. Bon, je pense que c'était une réflexion qui était tout à fait intéressante. Un jour, Milton Babbitt, qui est un compositeur américain qui a beaucoup travaillé dans le domaine justement des musiques électroniques lui aussi, disait que un enregistrement d'une symphonie de Tchaïkovski était pour lui une œuvre électroacoustique. Voilà. Moi, ça me semble tout à fait intéressant comme réflexion, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où l'œuvre, quand bien même elle a été prévue pour un orchestre acoustique, avec, on va dire, traditionnel maintenant, hein, un orchestre 19e siècle, romantique, bah, quand bien même voilà, elle est prévue pour ça, à partir du moment où elle est fixée sur un support, elle n'est plus la même. Elle est dépendante aussi de toute une chaîne d'action, de travail sur le son, de pattes sonores, etc., qui en font une œuvre, effectivement, électroacoustique. Ouais. Alors la définition devient du coup très, très, très difficile.
Ouais. Et d'où un champ vaste dans votre réflexion, mais vous arrivez à donner un chemin à ce champ vaste, et ce chemin, ce mouvement, en tout cas un des mouvements du livre, c'est de montrer comment de la partie, on va dire, savante de la musique électronique, on arrive à une popularisation de la musique électronique et finalement à une culture populaire. Enfin, l'ouverture, le mouvement vers la fin du livre, on va vers l'ouverture et vers les cultures populaires musicales.
Alors c'est l'axe que j'ai choisi effectivement en suivant une chronologie dans le XXe siècle. Mais même avant cet axe, on va dire que j'ai quand même pris trois pistes qui me semblaient tout à fait riches pour donner des indications sur les différentes pièces qu'on pouvait retenir. Ces trois pistes, ça a été tout d'abord celle de la matière sonore.
Ouais.
Le 20e siècle, c'est quand même le moment où, dans l'histoire de la musique occidentale d'abord, on s'est intéressé au timbre,
à la matière sonore. L'intérêt pour le timbre.
C'est ça. Et avant même que ce soit électronique, on avait tourné une grande partie de la production musicale, écrite, mais pas que d'ailleurs, vers ce paramètre qui devenait de plus en plus structurant, de plus en plus évident à travailler comme centre d'intérêt pour les compositeurs. Et finalement, le fait que par la suite de nouvelles lutheries soient arrivées, donc électroniques, n'a fait que prolonger ce premier geste. Donc ça a été ma première piste, effectivement. Et puis les deux autres pistes, c'est effectivement la technologie, comme on en parlait à l'instant, et donc les lutheries électroniques, les nouveaux instruments, ça précisément, qui commencent à arriver dès la toute fin du 19e siècle et qui vont se multiplier durant les années 20, 30 et puis jusqu'à nos jours. Et puis la troisième piste, c'est l'enregistrement, qui est la révolution musicale la plus criante, la plus flagrante de ce XXe siècle, et qui est une révolution musicale aussi fondamentale, aussi importante que... On faut remonter loin dans l'histoire de la musique pour en trouver une aussi conséquente, mais on va dire que l'arrivée de l'écriture au IXe siècle.
Voilà. Alors, on va essayer de développer ces trois pistes pendant l'heure qu'on a devant nous, Guillaume Kosmicki, et justement, parmi les compositeurs qui intègrent le bruit et finalement l'époque dans l'écriture de leur musique, il y a Bartok. Et Bartok, vous en parlez dans votre livre. Au début du livre.
Absolument. Alors, il fait partie, il faut faire des choix forcément, mais il fait partie de ces compositeurs que j'ai retenus, qui n'ont jamais mis un pied dans l'électronique. Alors, pourtant, il a cohabité avec des inventions, avec des apparitions de certains instruments. Il a cohabité avec l'enregistrement. Mais c'est un compositeur qui est resté sur l'écriture instrumentale, sur des instruments acoustiques traditionnels, qui s'est intéressé par son parcours au folklore de son pays, mais aussi de beaucoup de pays environnants, l'Europe centrale, l'Espagne, puis jusqu'en Algérie, qui était fasciné par la ressemblance entre tous ces folklores, très humaniste d'ailleurs ce compositeur, qui pensait que des peuples avec une musique aussi proche ne pouvaient pas se battre, que c'était le fait des couches supérieures d'entraîner la guerre et tous ces conflits malheureusement qu'il a traversés et qu'il a vécu très 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 mal, de par cet humanisme qui le caractérise. Et dans une œuvre que j'ai retenue, donc Le Mandarin Merveilleux, qui est un pantomime, qui est une œuvre qui est mimée normalement sur scène, il évoque la ville. Il évoque les sons urbains, il évoque les klaxons, il évoque les moteurs, il évoque tout cet univers moderne du début du XXe siècle, avec des instruments acoustiques, c'est vrai, mais avec une patte sonore qui reflète son paysage musical, son paysage sonore. J'ai dit paysage musical, c'est un lapsus, mais ça marche très bien. Son paysage sonore, et qu'il intègre donc avec des vraies masses très dissonantes parfois, des superpositions de boucles. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans cet exemple que j'ai choisi, c'est les boucles justement qui, à mon sens, sont une des voies extrêmement suivies par la composition jusqu'à nos jours, parce que notre univers sonore est envahi de boucles. boucle du matin au soir. On est dans un monde de boucles. Tout provoque des boucles autour de nous. Les ventilations, les cafetières qui coulent, les moteurs qu'on entend, explosions dehors. Enfin, tout ça, c'est des boucles. Et il met ça tout de suite dans sa musique.
En 1918.
Voilà, c'est ça. En 1918.
Le mandarin
merveilleux. Il réaménage en 24, mais tout à fait. Donc, c'est une belle interprétation de son paysage sonore.
Béla Bartok, en grand-père du sample, extrait du mandarin merveilleux, introduction. Mickey, l'envie de dire le monde, faire entendre le monde par le bruit, par son bruit qu'on intègre dans des compositions. Ça fait écho aussi avec, par exemple, l'Hardi Bruit de Luigi Russolo. Le bruit devient une matière à réflexion, à pratique. On se saisit du bruit.
Absolument. Et ce qui va quand même caractériser la plupart de ces compositeurs qui s'y intéressent dès le début du XXe siècle, c'est qu'ils souhaitent d'ailleurs dépasser la définition que l'on établissait traditionnellement entre son musical et bruit. Tout simplement, en fait, on disait que le son musical, c'est celui qui a une hauteur, c'est celui qui est formé de composants bien identifiables qu'on a travaillé tout au long des siècles en acoustique, c'est-à-dire les harmoniques dans un ordre bien déterminé, etc. Et on disait, voilà, ça, c'est de la musique, ça, c'est ce qui va constituer la musique. Le reste, ce sont des bruits, c'est tout le reste des sons.
C'est quoi, c'est une provocation au départ? C'est l'envie de rupture?
Pour certains, c'est une vraie provocation. Vous avez évoqué l'art des bruits. Alors, les futuristes, évidemment, ils appellent leur musique le bruitisme et ils disent que voilà, ils revendiquent le bruit comme force nouvelle de la musique. C'est très 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 provocant, mais en même temps ils le font avec un vrai sens esthétique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de faire de la musique désagréable, ils n'ont pas envie de faire des choses, ils ont envie de s'ouvrir toutes les voies possibles, des choses qu'on avait jusqu'alors refusées ou à peine esquissées dans certaines utilisations dans les siècles précédents. Ils veulent que ce soit quelque chose qui soit beaucoup, beaucoup plus large. Et beaucoup de ces compositeurs que je cite au début de l'ouvrage sur, qui utilisent la matière sonore pour composer, eh bien, le font en refusant complètement cette définition du bruit. C'est le cas de Varèse, par exemple. Je refuse de dire qu'il y a une différence entre le bruit et le son musical.
Varèse, c'est un prophète, vous dites.
Ah, on peut dire ça, tout à fait. Alors lui, c'est un prophète parce que c'est quelqu'un qui a rêvé très, très, très jeune d'apparition de nouvelles machines qui permettrait de suivre son rythme intérieur, dit-il, de suivre la voix comme ça de son imagination. Et ces nouvelles machines électroniques qui permettraient une étendue immense de spectres sonores, de fréquences sonores, enfin, des choses inimaginables jusqu'alors.
Et elles finissent par arriver, ces nouvelles machines.
Eh bien voilà, c'est ça. En fait, il les attend longtemps, il les attend très très longtemps, jusqu'à même traverser une période de véritable dépression, parce qu'il les attend trop longtemps. Il arrête de composer pendant les années 40. Et ce qu'il y a d'assez génial avec Varèse, ça c'est les hasards de l'histoire, il y a toutes ces œuvres de jeunesse qui étaient plutôt romantiques, plutôt plus traditionnelles, ont brûlé dans un appartement qu'il avait à Berlin. Et il était bloqué en France par la Première Guerre mondiale. Ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, lui qui était pacifiste d'ailleurs. Et il a donc tiré un trait sur son passé, fait une table rase forcée et s'est tourné ensuite vers la composition. Toujours avec l'orchestre, puisqu'il n'avait que ça sous la main, mais la composition vraiment de matière sonore à part entière. C'est-à-dire de matière sonore organique, rendre l'orchestre organique, ne pas du tout penser en mélodie, accompagnement, harmonie, enfin tous ces principes qu'on avait dans la composition jusqu'alors, mais vraiment penser en, par exemple, une impulsion, un choc initial d'une note va produire une résonance. Et le choc initial est donné par un piano, par exemple, et résonne avec une trompette. L'association, c'est lui qui l'a créé sur la partition, mais nous, quand on l'écoute, on a l'impression vraiment qu'il y a une fusion organique entre les deux sons. Et cette résonance s'amplifie, grossit, la matière devient vivante et elle engendre d'autres impulsions, d'autres chocs. Et voilà, tout ça, il le fait avec une écriture sur partition, avec un orchestre, avec des sons acoustiques, parfois en intégrant quelques instruments électroniques qui, timidement, voit le jour dans les années 20-30. Il utilise des ondes Martenot, il utilise des
térémines.
Térémines, absolument. Ah,
voilà,
absolument.
C'est un des premiers instruments
1920, ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait.
C'est un clavier.
Tout à fait. Ah, pas du tout, ce sont deux antennes. Ah. Le térémine, c'est Léon Térémine, donc un russe qui a créé l'instrument. C'est le principe de l'hétérodyne, donc ce sont deux antennes qui vont faire des sons inaudibles, des ultrasons, mais avec la position des mains par rapport à ces deux antennes, la verticale, elle gère la hauteur, l'antenne horizontale gère le volume, eh bien on va entendre le son, un son unique, c'est un instrument monophonique, et qui va permettre d'aller d'ailleurs très 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 aigu. Et c'est ces aigus qui sont inatteignables par un instrument acoustique qui intéresse tout à fait Varèse et qui l'intègre dans une œuvre là qui compose en 34, c'est Équatorial.
Équatorial, ouais. Donc il y a une version térémine, une version onde Martenot.
Absolument, il a ensuite adapté pour onde Martenot. Ouais. Il utilisait ce qui arrivait. Hein. Le térémine était créé en 1920, l'onde Martenot c'est 1928, mais il a utilisé les deux, il a essayé les deux et les deux versions de toute façon sont convaincantes.
Alors, voilà le début d'une des deux versions. Je ne sais pas si c'est onde Martenot ou térémine, peut-être que vous pourrez nous dire.
On va voir.
On écoute. Voilà, on entend les notes de cet instrument, alors Regium Cosmici, plutôt térémine.
Plutôt térémine, je pense. Après, j'ai eu un doute. Il existe une version, on ne sait pas la version qui a été retenue, mais dirigée par Ricardo Chailly, qui a un instrument hybride. Aujourd'hui, d'accord, on fait un peu avec un instrument qui a les deux versions. Ce qu'on entendait bien, en plus de cet instrument électronique, là, pour le coup, on a déjà une utilisation de l'électronique proprement dite.
1934, vous y êtes. Enfin, l'œuvre écrite en 1934.
Absolument, ouais. Elle a été écrite dans ces. Enfin, 33-34, mais terminée en 34. Ce qui est assez phénoménal, remarquable aussi, c'est le fait que Varèse s'est débarrassé assez vite des violons, des cordes qui sont trop connotées pour lui 19e siècle. Il a utilisé des instruments, un instrumentarium assez personnel, qu'on entend bien là, beaucoup de percussions, beaucoup de cuivre. Il y a d'ailleurs une œuvre où il n'y a que des percussions, quasiment, c'est ionisation. Et ces instruments, justement, percussions, ne produisent généralement pas de hauteur. Hein. Quand on écoute une caisse claire ou une cymbale, on entend une matière, quoi, un son qu'on ne pourrait pas chanter. Bon, il y en a quelques-uns qu'on peut chanter, les xylophones, etc., qui ont bien des hauteurs, mais la plupart sont juste des matières sonores. Et pour les cuivres aussi, c'est l'aspect rugueux de l'instrument, l'aspect palpable, hein, vraiment une vraie matière qui l'intéresse, et il fait que des associations un petit peu inédites. On entend un orgue aussi qui est un vrai générateur de son, presque un orchestre entre les doigts d'un instrumentiste. Il met tout ça ensemble et ça donne ces couleurs inédites.
Hein. Alors, Guillaume Kosmiki, est-ce que on peut dire que le désir de rupture dont on parlait tout à l'heure, d'innovation esthétique partagée à ce moment-là par les gens dont on a parlé jusqu'à présent, se transforme après la Deuxième Guerre mondiale en une forme, on va dire, d'utopie, dans le sens où on investit la musique, on investit le son par un élan intellectuel et politique. Est-ce qu'il y a ce mouvement-là après la Deuxième Guerre mondiale ?
Ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a le traumatisme qui est considérable, inédit, hein, dans l'humanité. C'est quand même quelque chose de monstrueux qui vient de se passer. Et pour beaucoup de jeunes compositeurs, il y a l'envie, effectivement utopique, d'une table rase. Parce qu'une table rase est impossible, totalement impossible. Ne serait-ce que penser table rase, c'est penser faire table rase du passé. Donc, penser au passé, forcément. Forcément. Une table rase se construit sur un passé. Donc c'est
il y a
pas
toujours
possible.
La table, de toute façon.
Absolument. Et donc, partir de là, déjà, entraîne des gestes nouveaux, des aptitudes nouvelles. Et puis, la deuxième chose, c'est quand même l'arrivée de nouvelles technologies, cette fois-ci maîtrisées, plus abouties, absolument. Ouais. Et donc, l'éclosion de certains laboratoires qui vont se mettre en place, ben, principalement dans les radios. Ça, c'est assez remarquable et c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on a la technologie de pointe, la radio. Ouais. Et ça commence en France avec la musique concrète de Pierre Schaeffer, qui se base sur l'enregistrement, sur l'utilisation du son fixé pour fabriquer de la musique. Et puis, il y a Cologne, les studios de la WDR, la Westdeutsche Rundfunk, qui elle investit les nouvelles lutheries électroniques et donc les ancêtres, peut-on dire, des synthétiseurs, avec une autre démarche, une autre manière de faire. Soit ce sont les premiers qu'on retient historiquement, et puis derrière ça, une flopée de laboratoires qui se créent un peu partout, en Europe, mais aussi dans le monde.
Oui, c'est un des grands intérêts de votre livre de musique électronique des avant-gardes de Dancefloor, Guillaume Kosmiki, c'est justement d'avoir une vision mondiale, internationale, en l'occurrence, des épisodes comme celui-ci, où on se rend compte effectivement que les laboratoires de recherche sonore, laboratoires musicaux naissent en France, en Italie, en Allemagne,
au Japon,
en Pologne et aux États-Unis aussi, beaucoup. Justement, je vais proposer d'écouter une pièce de Luciano Berio et qui fait appel à la voix de Cathy Berberian, qui était son épouse. C'est en 1958, c'est issu du studio de Milan de la RAI, un hommage à James Joyce. Voilà. Veil away, whistle fluted, the spiked winding cold, silent wrists. I feel loose, so lonely,
Thank you.
Vous écoutez l'Atelier du son, Thomas Baumgartner sur France Culture.
Alors là on a glissé, hein, Guillaume Kosmiki. On a même changé de continent. On est passé donc de Luciano Berio et Cathy Berberian et le laboratoire de la RAI à une pièce qui est à peu près contemporaine, 1952, For Magnetic Tape, pour bande magnétique, une pièce de Christian Wolff. Les États-Unis, à cette époque-là, sont, puisque c'est une pièce donc américaine, sont un lieu de. Il y a même plusieurs lieux aux États-Unis de réflexion autour même de la machine, on va dire. Comment transformer la machine, la bande, en l'occurrence, quelque chose de technique en instrument, en production elle-même de son.
Absolument, oui, les États-Unis aussi, très vite, sont dans le courant de cette apparition de tous les côtés, hein, de musique vraiment, peut-on dire, pour le coup, nouvelle.
Ouais.
Avec un côté, comme toujours, peut-être beaucoup plus pragmatique aux États-Unis. En Europe, sur le vieux continent, avec l'héritage musical qui est le nôtre, on dira, il y a toujours cette réflexion constante, ouais, derrière le geste qui veut que l'on justifie quand même par une belle théorisation, même les choses les plus empiriques. Ça a été le cas de Pierre Schaeffer, qui a été un grand théoricien aussi de sa musique enregistrée, à partir de l'enregistrement. Aux États-Unis, tout de suite, il y a peut-être moins cette volonté directement. Il y a peut-être beaucoup plus de ponts qui s'opèrent. Je pense à Louis et Bébé Baron, qui sont deux Américains qui avaient des synthétiseurs, des outils chez eux, et qui rapidement vont toucher aussi au monde du cinéma. Pourquoi pas faire la musique de Planète Interdite, qui est un énorme succès du film de science-fiction avec des soucoupes volantes, etc. Et alors qu'en même temps, dans le même temps, ils travaillent avec un compositeur d'avant-garde, John Cage, qui a des liens d'ailleurs avec Christian Wolff, et qui, ce John Cage, est plutôt quelqu'un de conceptualiste, dans ses œuvres. Aucun problème pour travailler dans les deux camps, on dirait, entre guillemets, alors qu'en Europe, c'est toujours beaucoup plus ardu de faire des ponts comme ça. L'Amérique est plus pragmatique de ce point de vue.
Justement, les ponts se font aussi entre la technologie et la musique plus facilement. C'est le lieu de la réflexion de l'informatique musicale. Vous en parlez, ça, dans votre livre, de l'informatique musicale, et ça arrive très tôt, en fait.
Alors, absolument. La computer music, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est un phénomène qui apparaît dans les années 50. Sur des ordinateurs qui sont vraiment monstrueux en taille et par rapport aux capacités
pratique,
d'aujourd'hui. Voilà, c'est quand même des choses qui étaient très très limitées, mais qui étaient la haute technologie de l'époque, qui coûtait des fortunes incroyables. On a des effets, des essais aussi en Europe de tout cela, mais c'est vraiment aux États-Unis que ça prend son essor, surtout dans le sillage des universités, l'université de l'Illinois, où on va réaliser des compositions assistées par ordinateur, mais aussi dans des laboratoires privés, des laboratoires d'entreprise, donc le laboratoire Bell, qui sont pour le coup vraiment très présents, avec un chercheur qui vient de disparaître tout récemment, il y a un an, c'est Max Matthews, qui était un des grands piliers de cette recherche. Et donc, ce Matthews qui a notamment initié, dans les années 50, les premiers enregistrements numériques de l'histoire. Ça, c'est assez étonnant quand on pense que le CD audio numérique arrive au début des années 80 pour le grand public. Mais les premiers enregistrements numériques, ça date de cette époque-là. C'est lui, Mac Matthews, qui, au début des années 60, va synthétiser les premières voix, artificielles.
On apprend même que le vocodeur date de la fin des années 30 dans votre livre.
Absolument. C'était des recherches autour de la téléphonie, d'ailleurs. Des moyens d'encoder la voix pour que ce soit moins pesant, moins lourd, plus facile à transporter dans les réseaux. Donc c'est vrai que les entreprises de téléphonie ont eu une grande importance dans l'histoire des musiques électroniques, jusqu'à nos jours, je dirais.
Alors il y a une figure, vous arrêtez sur plusieurs figures marquantes, évidemment, Guillaume Kosmiki, et il y a une figure française, quelqu'un qui passe l'Atlantique, qui vient de France et arrive aux États-Unis, qui est Jean-Claude Risset, qui est un scientifique, qui est aussi un créateur de musique.
Absolument. Alors Jean-Claude Risset, effectivement, est passé par les laboratoires Bell. Il a été donc très intéressé par les recherches de Matthews, de Pierce, enfin de tous ces chercheurs qui étaient présents. Et il a quand même été sensiblement déçu, parce que ça, on peut l'être, par les sons qui étaient créés dans ces laboratoires. On va dire que pour créer une seconde de son, il fallait 20 minutes de calcul, de travail intense. Hein. Et c'était pas des sons extrêmement convaincants. Et il s'est dit, bon, peut-être que pour donner une certaine richesse, peut-être pour trouver une matière intéressante, il va falloir qu'on commence par l'imitation de sons qui en ont une, dont on sait par l'histoire qu'ils en ont une. Donc, imiter des instruments acoustique. Et donc, il a fait des essais d'après ce qu'on savait de l'acoustique sur des spectres, des graphiques de représentation du son d'un violon ou d'un piano. Il a reproduit par l'ordinateur ce qu'il pensait être le son d'un violon. Et c'était très décevant, à nouveau. C'était vraiment très, très décevant. Hein. Ça fait penser un peu, si vous voyez, les bons tant pis des années 80. Ouais. Vous voyez, ces petits synthétiseurs qui portent très bien leur nom. Ouais. Hein. C'est vraiment quand on appuie, c'est ça, c'est bon tant pis. Et donc, on se retrouve, il se retrouvait face à ça. Il s'est rendu compte qu'en fait, le son qu'on appelait musical, le son de ces instruments acoustiques, était beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait bien le croire ou le dire, et qu'il était en fait rempli lui-même de petits parasites, de petits bruits, de tas de petites choses comme ça. Et il a travaillé sur l'imitation de ces sons. Il est arrivé à des résultats très convaincants. Et puis sur tout un ensemble d'autres recherches, comme les illusions auditives, les sons qui montent à l'infini alors qu'ils sont en train de descendre, ou tout un ensemble de recherches qui enrichissaient la palette sonore, aidé par l'ordinateur, et avec effectivement, il est scientifique, mais avec une vraie sensibilité, parce que c'est un vrai compositeur avec une vraie esthétique, quoi. Il y a quelque chose hein, dans ses musiques, que ce soit des années 60, 70, 80, il y a toujours eu des nombreuses compositions, et il y a toujours quelque chose de passionnant.
Vous vouliez qu'on écoute d'ailleurs une pièce de Jean-Claude Risset qui s'appelle Mutation.
Absolument, oui, c'est une œuvre de 69, voilà, où il met en pratique toutes ses premières recherches hein, des laboratoires Bell.
Donc un extrait de Mutation de Jean-Claude Risset, 1969, Guillaume Kousmikis. À cette époque-là, l'électronique est déjà dans, on va dire, dans les chansons, dans ce qu'écoutent les gens. Enfin, c'est déjà devenu une forme populaire d'expression musicale. Là, on est dans une forme de recherche et ça continue aussi, mais le grand public, les oreilles sont déjà habituées à ces sons-là.
Oui, le grand public a été déjà familiarisé dès les années 50, hein, je le disais, notamment par le cinéma. Oui. Dans la musique, même dans la musique de Herman, pour Hitchcock, il y a des utilisations d'instruments électroniques, il y a de plus en plus des effets sonores qui se font entendre. Donc, c'est quelque chose qui déjà se sensibilise hein, légèrement le public. Mais la profusion de techniciens de studio, de réalisateurs artistiques de studio pour le rock dans les années 60 et qui travaillent vraiment énormément la patte sonore avant de la fixer sur les disques, va aussi introduire hein, de nombreux effets, de nombreux instruments nouveaux.
Il y a eu des croisements entre les laboratoires, c'est-à-dire lieux de recherche, et puis les studios. Il y a des instruments qui passent de l'un à l'autre. Il y a des effets. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'au GRM, il y a des effets sonores qui sont développés au groupe de recherche musicale et qui existent à la radio, dans les disques. Est-ce que ça se croise ?
Les premiers croisements, on dirait qu'ils sont pas tant, on va dire, d'un matériel qui crée le studio comme ça physiquement, mais il y a quand même des révérences Hein, je dirais ça comme ça, référence et révérence qui sont très nettes. Sur l'album Sgt Pepper des Beatles, il y a quand même Stockhausen qui est bel et bien présent. Et John Lennon a entendu la musique électronique de Stockhausen. Il a fait même un hommage dans son disque par un découpage de bandes, un collage comme ça sur la chanson Revolution 9, donc qui est extrêmement surprenante dans l'album. Il y a des tas de ponts comme ça qui s'établissent effectivement par ce qu'écoutent les gens. Il y a des artistes aux États-Unis qui passent du monde de la musique électroacoustique ou de l'électronique live, comme John Cale, au monde du rock avec les Velvet, etc. Enfin, il y a des ponts qui se font effectivement sur la sensibilité, on dira. Et puis, effectivement, le matériel électronique, les instruments électroniques se développent considérablement dans les années 60 et on va assister au premier synthétiseur de grande diffusion, on peut dire ça comme ça, avec des bijoux de technologie, des choses très 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 abouties, bien plus abouties qu'elles ne l'ont été dans les époques précédentes, mais qui se destinent à un marché un peu plus large que celui des petits laboratoires confinés. Je pense au Moog, bien sûr, qui Monsieur Moog, qui va créer un grand nombre de synthétiseurs, et qui en 1970, avec le Mini Moog, réussit un grand coup, puisque c'est diffusé partout dans le monde, et le monde de la pop, du rock, s'en empare aussi bien que le monde de l'électroacoustique.
Et le monde du cinéma, donc, cinéma qui permet aussi de faire entendre des sons différents, en particulier, vous parlez dans votre livre de la bande originale de Orange Mécanique, qui mélange musique classique du Beethoven et puis des sons plus contemporains, le Moog en particulier. Vous arrêtez sur la figure de Wendy Carlos.
Absolument. Alors Wendy Carlos, donc qui faisait déjà, qui enregistrait déjà de la musique classique avant cette collaboration avec Stanley Kubrick. C'est un travail d'ailleurs qui est incroyable parce que le Moog est un instrument qui est monophonique et donc pour enregistrer un orchestre comme on l'entend, et ben elle enregistre note par note, ligne par ligne, en superposant sur des bandes les et ça donne quand même quelque chose qui est très 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 vivant, très intéressant. Et Stanley Kubrick a été interpellé par les gestes de Walter Carlos, de Wendy Carlos, elle est devenue Wendy Carlos, et il a utilisé ça sur Orange Mécanique, mais d'une manière extrêmement intelligente, parce que dans Orange Mécanique, il est question de l'utilisation de la musique, qui n'adoucit pas du tout les mœurs, de l'utilisation de la musique à des fins d'ultra-violence. Et on entend un Beethoven complètement transformé par l'utilisation du synthétiseur, et justement sur une 9e symphonie qui elle-même a été totalement transformée dans son message, par les utilisations successives qu'on en a fait, depuis Beethoven et son message humaniste, jusqu'à Wagner, à Bayreuth, jusqu'aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'Europe, pourquoi pas d'ailleurs, aussi, qui utilise
l'hymne à la joie,
absolument.
Bah, l'hymne à la joie.
Écoutons-le.
Alors Guillaume Kosmiki, on est obligé d'avancer à grands pas. On avance à grands pas depuis le début de l'émission, oui, forcément. Mais l'électronique devient peut connaître des succès mondiaux, ça arrive aussi. Vous parlez de Kraftwerk, groupe allemand, dans les années 70, qui existe toujours, mais qui est connu dans les années 70 en étant d'avant-garde, d'une certaine manière, un succès mondial, notamment avec Autobahn. Mais petit à petit, en avançant, est-ce que la modification des choses, c'est pas aussi que chacun s'approprie la musique, le moyen de faire de la musique électronique, pour reprendre le titre de votre livre, ces moyens-là sont aussi les moyens de transformer la musique. Et ça, c'est quelque chose de très contemporain. C'est un peu l'ouverture, votre ouverture, l'hybridation des choses.
Transformer la musique oui, c'est-à-dire
se l'approprier.
Oui, se l'approprier. Tout de suite, j'ai pensé au sample, mais vous pensez peut-être à autre chose
sample, pourquoi ouais. pas. Mais
En tout cas, c'est tout à fait naturel que que cet instrumentarium il est servi à des musiques plutôt de réflexion, à des musiques plutôt de travail très pointu sur le son avec des expérimentations, mais qu'il est aussi servi cet instrumentarium bien sûr à faire danser, à faire la fête et à d'autres fonctions que la musique aussi assume très très bien. Donc à partir de cette fin des années 60, on a un basculement et une utilisation tous azimuts de cet instrumentarium qui va se manifester dans des styles extrêmement variés, passant par le disco par exemple, qui s'électronise aussi, passant par l'insertion dans des styles plus anciens, le rock, le reggae, etc. D'instruments électroniques qui font leur arrivée, et puis passant aussi par l'arrivée de styles entièrement construits, et ça c'est plutôt dans les années 80, entièrement construits sur l'utilisation de l'électronique. Et là où aucun finalement instrument acoustique ne sont suscités, et où on utilise uniquement des synthétiseurs qui reproduisent éventuellement, pourquoi pas, des sons de batterie, pourquoi pas aussi emprunte à des musiques autres ou à des sons autres, enregistre des petits bouts, les sampleurs, introduise ces petits bouts, notamment basés sur des boucles, pour reconstruire de nouvelles pièces inédites à partir de musiques déjà existantes. Et là, on en a une profusion dans les années 80, entre la culture hip-hop, donc de nombreux morceaux de rap, entre le rock très électronique en Angleterre qu'on appelle le synth-pop, entre les premières traces dès 1985 de ce qu'on appellera la techno, donc la house, la techno. Enfin, là, on a une profusion de genres totalement électroniques qui voient le jour.
Vous dites aujourd'hui, on vit un moment de calme avant la tempête, un moment charnière. Et vous dites, les différences tendent à s'affaisser entre musique savante et musique populaire. C'est quoi le calme avant quelle tempête, Guillaume Kosmiki ?
L'enregistrement, c'est une révolution conséquente, l'enregistrement est tout jeune, en vérité, dans l'histoire. Il a 100 ans, un peu plus que 100 ans, mais le moment où on commence à faire de la musique avec l'enregistrement, c'est autour de 1950. Et c'est très, très jeune, ça fait 60 ans. C'est ça la tempête que j'imagine. C'est que chaque révolution a mis quelques siècles avant de voir les conséquences les plus flagrantes. Et là, on touche, on essaye, on expérimente, on voit dans tous les sens ce qu'on peut faire avec l'enregistrement, mais on n'a pas encore trouvé de voie, établie, de langage. Voilà, c'est ça, je dirais, autour de cette nouvelle technologie.
Oui, c'est un beau point d'interrogation qui conclut votre somme musiques électroniques des avant-gardes au Nonsfloor. Et on ne peut que conseiller de se plonger. On allait à toute vitesse ce soir,
mais bon,
c'était nécessaire pour montrer combien était vaste votre réflexion et l'histoire que vous racontez dans ce livre, qui est donc publié aux éditions Le Mot et le Reste, qui est peut-être un peu difficile à trouver en ce moment, mais qui va être réédité.
En octobre.
En octobre. On va patienter, mais je suis sûr qu'on peut le trouver. Merci beaucoup.
Merci.
Et c'est la deuxième partie de l'atelier du son. Deuxième partie avec un zoom sur un parcours, et sur une écriture. Après la conversation avec Guillaume Kosmiki, en plan large, on vous propose un focus sur une compositrice électro-acoustique, Elsa Justel, et vous nous faites l'amitié, Elsa Justel, d'être avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, en écoutant cette histoire des musiques électroniques, vous avez retrouvé quelques-unes de vos balises, quelques-uns de vos repères personnels?
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de repères.
Oui,
dans une longue carrière, on a toujours des points de repère comme ça, depuis Varese, en passant par Xenakis, qu'on n'a pas mentionné, mais qui c'est aussi un point de repère important. Et bon, jusqu'à nos jours, avec l'informatique.
Jean-Claude Risset, dont on a parlé, c'est quelqu'un qui vous a marqué.
Oui, j'ai un grand respect pour Jean-Claude. Il était d'ailleurs un jury de ma thèse. Et en plus, il est une personne charmante, d'ailleurs. Et évidemment, il a beaucoup apporté à l'évolution, surtout dans les champs acoustiques, comme tu as bien expliqué, qui a changé. Je pense que c'est pas une révolution, peut-être, mais il a changé l'approche que nous avions au timbre. Mm-hmm. Que c'est, jusqu'à ce moment, c'était quelque chose de mystérieux. On savait très peu à propos du timbre. Et après ces recherches, on a pu se mettre dedans, dans les sons, et trafiquer, disons, depuis l'intérieur, depuis le cœur du son. Et ça, pour nous, pour la création, c'est très important.
À quel moment, Elsa Justel, vous vous rendez compte du plaisir qu'il y a à justement se plonger dans le son et à agir dessus? Vous, au départ, vous venez de la musique classique et du piano, voilà.
Ouais.
Et à quel moment, tout d'un coup, il y a bifurcation?
En fait, c'était depuis le début, parce que pour moi, le piano, bien sûr, j'ai joué le piano, les sonates de Beethoven, tout ça, mais ce n'était pas ce qui m'intéressait de jouer, mais de découvrir ces magies du son dans le piano, dans les autres instruments aussi. Donc, le parcours a été très graduel. Mais il y a des choses qui m'ont marqué. Par exemple, la première écoute des poèmes électroniques, j'étais jeune et je me demandais comment est-ce qu'on fait ces sons-là. Pas avec un instrument, évidemment. Mm-hmm. Donc, je voudrais faire ça. Je voudrais pouvoir apprendre à manipuler les appareils pour réussir à faire ces sons. Et bon, et après, il se sont passés beaucoup de choses. C'est très long, le chemin.
Mais c'est un chemin qui commence à Mar del Plata, en Argentine.
À Buenos Aires, parce qu'à Mar del Plata, c'était une petite ville à l'époque. Donc, j'y allais de temps en temps à Buenos Aires, écouter des concerts de musique électroacoustique. Parce que d'ailleurs, parmi les études des studios de musique électroacoustique, il y avait celle de Buenos Aires qui était assez tôt dans l'histoire parce qu'il a été créé le premier studio en 1958. Mmh, mmh. Donc, depuis cette époque, il y a eu des concerts régulièrement. Et c'était là où j'ai commencé à avoir contact avec cette musique.
Il y a deux autres villes qui sont citées d'ailleurs dans le livre de Guillaume Kosmicki et qui ont compté pour vous, c'est Darmstadt et Bourges.
Oui. En fait, à Darmstadt, j'ai connu Bourges parce que je n'étais pas très au courant comme j'étais de l'intérieur du pays. À l'époque, il n'y avait pas l'Internet. L'information arrivait beaucoup plus lentement. Donc, je suis allée à Darmstadt en 1984, la première fois. Et là, j'ai trouvé quelqu'un, parce que je me demandais où est-ce que je peux continuer à travailler la musique électroacoustique, quelqu'un qui m'a dit, il y a Bourges. Il y a l'Institut, là, l'EGMEB, à l'époque.
Groupe de musique expérimentale de Bourges.
Voilà. Donc, j'ai envoyé une lettre et une petite pièce que j'avais faite avec mon synthétiseur à l'époque. Et voilà. Et ils m'ont reçu pour faire ces cursus qu'il faisait au début. Bon, hélas, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais le studio pour moi toute seule. J'étais ravie d'être là.
Oui, alors il y a le côté, le studio comme, et le home studio comme lieu de création. Vous chassez les sons, quels qu'ils soient, mais il y a le moment de se rassembler soi-même à l'intérieur du studio. Ça, c'est un endroit et un moment fondamental dans votre méthode.
Oui. Bon, ça n'est plus comme ça pour les jeunes, parce que maintenant, tout le monde a son ordinateur, il peut le travailler chez soi. Mais à l'époque, ce n'était pas facile. Il fallait trouver l'endroit pour pouvoir fabriquer nos sons et articuler une pièce. Donc, c'est un moment pour l'évolution de la musique électroacoustique. Cette période, c'était très important pour ceux qui avaient la possibilité d'entrer dans un studio, parce que là, il y avait tous ces appareils qui, à l'époque, étaient très grands, comme tu as dit, très encombrants. On ne pouvait pas les avoir à la maison. Et donc, c'était le lieu idéal pour pouvoir créer, pour pouvoir composer.
Vous êtes venu ce soir avec deux pièces. On a écouté un extrait pour introduire cette conversation, un extrait de Basse-Tête qu'on trouve sur votre disque MA, M-A-T-S. Et vous êtes venu avec une pièce qui s'appelle Casinada, Presque rien. Presque rien, c'est un écho et une référence évidemment à Luc Ferrari.
Oui, 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 c'était un... Enfin, il n'aimait pas qu'on dit hommage, mais c'est un peu un hommage à Luc Ferrari. Et a été faite cette pièce par une proposition qui a lancé Brunhilde Ferrari,
son épouse,
aux différents compositeurs, où on pouvait travailler les sons enregistrés par Luc Ferrari. Donc, voilà, ça c'était une expérience très intéressante parce que normalement, presque tous les compositeurs, on travaille avec nos propres sons ou ce qu'on croit être nos sons et enregistrés par nous-mêmes. Et dans ce cas, j'ai dû faire avec des sons enregistrés par un autre et avec un critère peut-être différent. Mais j'ai noté dans le festival Le Bruit Blanc qui a été joué la pièce qui plusieurs compositeurs et même des improvisateurs avaient utilisé le même son. Et chacun a fait des choses très différentes avec ça. Donc, ça a quelque chose à voir avec ce qu'on parlait tout à l'heure de prendre les sons déjà faits. C'est-à-dire, un son, ça n'appartient à personne. Oui, Le son est là et on peut faire différentes choses avec la même source, un même objet.
Et vous, vous avez donc fait Casinada et voilà donc les sons qui vous ont choisi. C'est ça? C'est comme ça que ça se passe?
Oui.
Extrait de Casinada, donc référence, hommage à Luc Ferrari que vous signez, Elsa Justel. Il y a encore une question que je me posais, c'est que vous, on parle de son, on parle de, du son qui vous choisit, mais vous, vous attaquez aussi à l'image.
Oui, oui, c'est vrai, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai fait la musique électroacoustique avec l'image. Et en fait, ça, je travaille sur un genre qu'on appelle vidéomusique, à différence de la vidéo habituelle où on fait l'image et après on ajoute une musique. Dans ce cas, c'est, je pense les tout, mais avec un pensée musicale. C'est-à-dire la forme de structurer le temps, la dynamique, ça provient du son plutôt de la musique. Je travaille avec aussi la matière, parce que la matière sonore dans la musique électroacoustique, c'est important. Et j'essaie d'associer la matière de l'image, c'est-à-dire si j'ai fait la photographie d'un verre, par exemple, j'utilise les sons de verre pour accompagner cette image. Et comme ça, j'essaie de trouver un parallèle entre la perception visuelle et auditive, qui sont d'ailleurs des illusions, toujours les perceptions, aussi bien de l'image que du son, comme bien dit Rissé, mais que parfois ça marche ensemble et parfois pas, mais il faut chercher.
Tout ça, c'est une question de sens et de langage, de mettre ensemble sens et langage?
Oui. J'ai un peu l'héritage de la culture française, enfin de la culture européenne. En Argentine, on a eu l'école, les différentes écoles, soit allemandes, soit françaises, mais en tout cas européennes. Et pour nous, le sens, c'est un élément important. Ce n'est pas seulement l'expérimentation sur la source sonore, sur la matière, mais ça doit avoir aussi un sens. Et c'est pareil pour l'image.
La rencontre aura été courte ce soir, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, Elsa Justel, pour évoquer rapidement votre travail. Il y a un CD, donc, MATS, qu'on peut trouver. Et puis, il faut continuer à vous guetter des projets en cours, peut-être, des choses qui se passeront à New York l'année prochaine, mais on n'en dit pas plus. Merci beaucoup.
Merci, Thomas.
Piano plus dispositif électronique en improvisation, signé Nicolas Kant, une pièce qui s'appelle Autour de Planck, et vous vouliez faire entendre ça à Guillaume Kosmicki avant que l'émission se termine.
Oui, je pense que c'est un exemple intéressant. C'est un instrument acoustique, le piano, en plus très ancien, très historique, et un dispositif extrêmement récent d'ordinateur qui le traite en temps direct. Tout cela avec une origine, on dira, presque jazz, puisque le pianiste en question, Nicolas Kant, vient du monde du jazz. Et ça donne ce type de résultat sonore qui correspond bien à notre époque.
Merci beaucoup Guillaume Kosmicki. Le nouveau livre, donc il y a Musique électronique, des avant-gardes au dance floor, on l'a dit. Et puis il y a un livre à paraître à l'automne, Musique savante, un parcours du XXe siècle en 150 œuvres. Et puis il y avait déjà eu Free Party, une histoire des histoires, aux éditions Le Mot et le Reste, comme le premier livre cité. On met des compléments, des liens sur le site de l'Atelier du Son sur franceculture.fr. Merci encore Elsa Justel. Pour vous aussi, on met quelques liens sur le site où on trouve aussi la possibilité de réécoute, de podcast et de commentaires. L'Atelier du Son est préparé par Inès de Brunet-Yel, Mandel Beaumosson. Il y avait ce soir Tahar Bouflika à la réalisation, bien évidemment, Véronique Lamandour. Thomas Baumgartner, je vous laisse avec Aurélie Charron et je vous dis à la semaine prochaine.
Les ateliers de la nuit, c'est fini. Nous sommes tous à réécouter et à podcaster. Atelier intérieur, atelier du son, création et fiction. Il suffit de cliquer sur le site internet de France Culture. On se retrouve la semaine prochaine, mardi et jeudi, avec un documentaire en diptyque sur les traces de Gertrude T, réfugiée juive à Shanghai durant la Seconde Guerre mondiale, de Marie-Hélène Bernard. Dès 1933, Shanghai a accueilli des Juifs en exil et sans visa, 30 000 émigrés, pour qui le bouleversement fut total. Marie-Hélène Bernard repart sur leurs traces et raconte cette partie méconnue de l'histoire. Mercredi dans l'atelier fiction, P. Petula, de Léna Kitsopoulou, monologue sur l'état de la Grèce et sur la femme moderne, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, dans le cadre des Chantiers d'Europe consacrés cette année à la Grèce. Vendredi soir, Thomas Baumgartner, dans son atelier du son, reçoit Dominique Petitgand à l'occasion de son exposition au musée de Strasbourg. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, on sera en direct de 23h jusqu'à minuit et on parlera des chambres, de notre chambre, de toutes les chambres que nous avons traversées dans nos vies avec Michel Perrault et la chorégraphe Perrine Vallis.